Bonjour à tous. Nous entrons dans un moment culminant de cette section à l'étude depuis le chapitre 13. Et ce matin, nous lirons les 12 premiers versets du chapitre 17. Mais avant, ce serait peut-être bien de resituer, en tout cas de situer à nouveau le texte que nous allons étudier. Alors, si on ne fait pas attention, on aurait tendance à oublier que nous sommes toujours dans cette période de Pâques. Rappelez-vous les premiers versets au chapitre 13, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Les douze sont avec Jésus dans un espace réservé pour ce qui est le dernier repas. Au cours de ce repas, Jésus dévoile les différentes étapes qui mènent ou qui mèneront à sa mort à la croix. Jésus lave les pieds des disciples et pendant ce temps, il fait part de la trahison qui vient du sein même du groupe de son équipe. Il ne cache pas à Pierre son reniement à venir. Et dans cette ambiance pesante, il réconforte les disciples. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, leur dit-il au chapitre 14. La foi en Dieu et en moi, dit Jésus, est votre bouclier. Et Jésus parle clairement de son départ vers le Père. Et cette annonce suscite des questions. Thomas réagit. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Quant à Philippe, il souhaite que Jésus leur montre le Père. Et à chaque fois, Jésus leur parle de la foi en lui et en son Père. Et il profite pour dire à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est cela que vous devez croire. C'est votre assurance pour la vie éternelle. Jésus rassure ses disciples non seulement en leur rappelant l'importance de la foi en lui et en son Père, mais il leur fait aussi une promesse. Il ne les laisse pas seuls. Jésus ne les abandonne pas. Ils recevront le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de péché. Il est le défenseur, celui qui enseignera toutes choses et rappellera les paroles de Jésus. Jésus enseigne aussi sur le lien qui les unit. Lui est le cep et eux sont les sarments. Pour rester en vie, les sarments ont besoin, ont la nécessité de rester attachés au cep. Dans ces conditions, ils portent du fruit. Mais cet attachement à Jésus, cet attachement au cep qu'est Jésus, suscitera le désamour pour le monde. Le monde haïra les disciples. Et cela ne doit pas les étonner. Cela ne doit pas être une surprise pour eux. Au contraire, cela doit les renforcer dans leur attachement à Christ. Puis au chapitre 16, Jésus explique « Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. » Le proverbe populaire dit que « un homme averti en vaut deux ». Et ce chapitre s'achève par un autre bien qui est offert aux disciples. Jésus leur donne sa paix et il leur rappelle de ne pas craindre d'être dans le monde parce que lui, Jésus, a vaincu le monde. Et après ces échanges, Jésus s'adresse à son Père. Et c'est ce texte que nous voulons à présent lire ensemble. Jean chapitre 17, versets 1 à 12. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Une histoire de gloire. L'heure est venue, dit Jésus quand il s'adresse à son Père. À plusieurs reprises dans cet évangile, Jésus répond que son heure n'est pas encore venue. Ici, le moment fixé par Dieu, depuis la chute en Éden, ce moment est là. C'est toute l'histoire de la rédemption qui se réalise. Des siècles se sont écoulés. De nombreux prophètes ont annoncé ce moment. Combien ont souhaité le connaître cet instant ? Ceux qui sont les témoins oculaires de cette réalisation vivent des moments exceptionnels, extraordinaires. Ils vivent là quelque chose que l'humanité ne connaîtra plus jamais. Quel moment grave! Quel privilège de voir la parole de Dieu s'accomplir sous vos yeux! Rien n'est comparable à ce qui se joue à ce moment où Jésus déclare « L'heure est venue ». Imaginez-vous, enfant, et que vos parents vous promettent en disant « Quand tu auras ta majorité, nous ferons telle ou telle chose pour toi. » Et pendant que vous grandissez, vous attendez ce moment. Et quand ce moment se réalise, quand c'est le jour anniversaire, eh bien vous retournez vers vos parents en disant « La promesse avait été faite, est-ce que vous la réalisez ?» Quand c'est un événement heureux, on l'attend avec impatience. Quand c'est beaucoup plus complexe, on souhaite que cela soit le plus tard possible. L'heure dont parle Jésus n'est pas un moment agréable. Pourtant, il parle de glorification. Quel contraste! Il est question de mourir à la croix, de souffrir, d'être maltraité, méprisé, humilié. Et pourtant, Jésus parle de gloire. Le Fils n'est pas déprimé à l'idée de voir se réaliser la volonté du Père pour l'humanité. Le Fils a confiance totale dans le Père. Il sait que ce que décide le Père est bon pour l'humanité. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus dit, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, verset 39. Jusqu'au bout, Jésus se montre obéissant. Une obéissance absolue. Christ recherche une seule chose, la gloire du Père. Et lorsqu'il prie son Père, Jésus n'attend pas d'être revêtu de splendeur. Sa préoccupation est que la volonté du Père s'accomplisse. À cette heure venue, seul compte la promesse faite par le Père à l'humanité de lui donner un sauveur, de lui accorder le salut, de lui redonner la dignité perdue en Éden. La croix, l'ascension et l'élévation de Christ constituent un ensemble, un package. C'est un tout à saisir et Jésus l'a compris. Sa prière est que la volonté de Dieu devienne réalité comme il l'a décidé. Et ce verset nous donne l'opportunité de mieux comprendre quel Dieu nous servons. Il est Père, il est Fils et il est Esprit. Le Fils révèle la gloire du Père, tout comme le Père révèle la gloire du Fils. Il y a là une identification parfaite. Jésus est pleinement Dieu, tout en étant Fils. Nous servons un Dieu en trois personnes distinctes. Au-delà de cette observation, l'intimité vécue dans cette entité est une invitation pour l'Église. L'Église que nous sommes. Jean 15, 9, Jésus recommande aux disciples de demeurer dans son amour. L'amour entre le Père et le Fils et l'Esprit est le modèle d'amour dans lequel nous devrions vivre. Nous devrions vivre entre nous et Dieu, mais entre nous aussi, entre frères et sœurs d'une même famille. Dans sa relation fusionnelle au Père, Jésus possède le pouvoir de donner la vie éternelle. Et ce pouvoir n'est pas la conséquence de son obéissance. Au Père, en Jean au chapitre 1, verset 12, on peut lire ceci. À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et c'est le même chapitre qui nous enseigne que la parole s'est faite homme. Et cet homme est identifié en la personne de Jésus. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a la capacité de donner la vie éternelle. Et la vie éternelle consiste en le fait de connaître le Père. Rappelez-vous ce que nous avons dit dans l'introduction. Par rapport à Philippe, Philippe demande à voir le Père. Et la réponse de Jésus, c'est « Je suis là. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. » Jésus, le seul et unique chemin. Nul ne va au Père si ce n'est par le Fils. Alors certains courants religieux rejettent le Fils et parlent du Père comme seul Dieu en qui ils disent croire. Pourtant, lors du baptême de Jésus, le Père a rendu témoignage au Fils en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Alors, si le Père fait une telle déclaration, que valent nos petites pensées, que valent nos petites réflexions? La vie éternelle que donne Jésus consiste en nous faire connaître le Père. Alors, certains ont des aptitudes intellectuelles phénoménales. Ils sont capables de disserter pendant des heures et des heures sur ce qu'ils savent de Dieu. Mais Jésus ne parle pas d'une acceptation intellectuelle, comme Paul nous l'a dit dans la présidence. Jésus parle d'une relation véritable avec le Père à travers le Fils. Es-tu capable de dire en ton âme et conscience que ta volonté, ô Jésus, se fasse dans ma vie pleinement. Nous lisons avec simplicité comment Jésus dit au Père que sa volonté se fasse. Pourtant, il sait qu'il va vers la mort. Connaître le Père, le seul vrai Dieu, c'est d'abord avoir une relation avec Christ. Aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Il s'agit de vivre selon Christ. Alors ce n'est pas une liste des choses à faire. Ne rentrez pas à la maison en disant « Ah ça j'ai fait, cocher, cocher, cocher ». Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'acquérir une identité nouvelle. Elle passe par la foi dans la parole du Christ. Une confiance totale en ce qu'il dit. Une communion véritable qui se traduit par la relation personnelle que nous avons avec Christ. Si nous entrons dans cette dimension, nous connaîtrons le Père. Dans cet extrait, nous avons lu ce que Jésus déclare au sujet de la vie éternelle. Elle est accordée, je cite, « à tous ceux que tu lui as donnés », dit Jésus. La vie éternelle n'est pas un caprice donné arbitrairement. Et nous sommes ici face à une difficulté théologique. Il y a deux écoles. Celle qui promeut la prédestination et celle qui met en avant le choix libre de l'homme. Les deux points de vue sont enseignés dans la parole de Dieu. Jésus, dans sa prière, fait référence à ceux qui lui ont été donnés. Dans le texte de Jean 1, verset 12, que j'ai cité tout à l'heure, il est question de ceux qui ont accepté et qui croient en Christ. Et cela n'enlève rien au fait que Dieu aime le monde et qu'il donne son Fils pour celui ou celle qui croit en lui. La vie éternelle n'est pas une vie sans fin. Elle est le fait de connaître le Père. Alors la bonne question à se poser pour soi-même, c'est « Suis-je en relation avec ce Dieu éternel ?» En Éden, le Seigneur déclare « Faisons l'homme à notre image » Genèse 1, verset 26. « Si Dieu fait l'homme à son image, c'est pour prolonger la communion divine vers l'humain. » La désobéissance d'Adam en Éden marque la fin de la communion avec l'Éternel. Et l'homme est renvoyé de la présence du Seigneur. La mission du Fils consiste donc à rétablir ce lien, rétablir cette communion brisée en Éden. Alors que l'heure de son accomplissement est venue, Jésus peut déclarer « J'ai terminé ce que tu m'as donné à faire ». Puisque la mission est accomplie, le retour vers le Père est donc l'étape qui suit. Lorsque les spationautes reviennent sur Terre, ils sont célébrés. C'est des personnes particulièrement respectées. Ils sont adulés. Parfois même, ils sont adorés. Lorsque le Fils accepte l'incarnation, il consent à quitter la gloire céleste. Et son état d'homme n'est pas une simple transition en attendant de retourner au Père pour être comme il était avant. Jésus ne demande pas à retrouver la forme qu'il avait avant l'incarnation. Le Fils venu dans le ventre d'une femme retourne au Père avec un corps humain, mais un corps transformé et un corps glorifié. Et ce retour vers le Père est le gage pour les disciples de la réception du Saint-Esprit. Jésus disait, il est bon que j'aille vers le Père, pour que vous receviez le Saint-Esprit. La croix rend la communion au Père possible. Elle garantit la purification des péchés pour ceux qui placent leur foi en Christ. Et ce retour de Jésus est attesté par Étienne au moment de la lapidation, souvenez-vous, en Actes 7, verset 56. Étienne voit le Fils debout dans la gloire du Père. La lecture du verset 6 est assez étrange. Que veut dire Jésus quand il déclare « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Le Père connaît toutes choses. Il sait que certains sont disposés à écouter, à recevoir la parole, à se laisser transformer, à vivre autre chose, à vivre selon le plan de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur peut affirmer à Paul en Actes 18, versets 9 à 10, « N'aie pas peur, parle, ne t'étais pas, car je suis moi-même avec toi, et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Autrement dit, le Seigneur sait. Il sait qu'il y a un peuple nombreux. Alors parfois, les chrétiens ont tendance à à vouloir convaincre les autres par leurs propos tellement intelligents. Probablement que cela manque de sagesse. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc le péché. Et Dieu sait quel est le peuple qui est le sien. Dieu sait qui va recevoir la parole. Dieu sait qui va être transformé. Laissons le Seigneur agir. Il est capable de défendre sa parole. Toutefois, cette prière de Jésus pose des questions sur le timing. Lorsque Jésus déclare au sujet des disciples qu'ils ont gardé ta parole, on se sent peu à l'aise, puisque l'on sait qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit et qu'ils sont chancelants dans leur marche. Pourtant, Jésus, lui, est déjà une étape plus loin. Doit-on y voir une marque de confiance du Seigneur en l'humain, ou davantage une pleine confiance au Père qui accomplit toujours et jusqu'au bout l'œuvre qu'il entame? Les disciples n'avaient sans doute pas tout compris. Ils n'avaient pas compris tout ce qui allait se passer. Ils ont néanmoins compris qui était celui qui leur parle. Ils ont compris qu'ils pouvaient lui faire entière confiance. Ils ont compris qu'il n'y a pas de salut en dehors de lui. Ils ont compris que Jésus est celui qui vient du Père. Ils ont compris que Jésus est le Messie promis à Israël et au monde. Ils ont compris que la confiance, leur confiance, peut être remise à cet homme qu'est Jésus. Alors nous vivons dans un monde qui est un monde dans lequel il faut toujours apporter la démonstration de ce que l'on dit, notamment quand cela concerne la foi en Christ. Nous sommes environnés des personnes qui se disent rationnelles, celles qui refusent d'accepter de croire sans qu'on leur apporte la preuve de ceci ou de cela. Nous sommes dans un monde où l'information est accessible à de nombreuses personnes. La connaissance semble à disposition de tous. Alors les hommes cherchent la connaissance dans des livres aussi nombreux que le sable de la plage. Et au bout de nombreuses années, ils cherchent et ils cherchent toujours. Jésus parle des disciples et surtout de leur foi. Jésus déclare : « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Et ils les ont acceptées. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. La foi en Jésus est indispensable pour le salut de l'âme. C'est la foi en Jésus qui conduit au Père. Jésus prie pour ce que Dieu lui a donné. Et il évoque 4 raisons à cela. Jésus demande au Père de garder les disciples parce qu'ils sont à lui. Ils sont au Père. Jésus les a reçus. Il les a reçus comme un cadeau. Et ce cadeau est précieux aux yeux du Père. Et le Fils le sait. Il en a pris soin. Et maintenant qu'il doit les quitter, il est préférable que ce cadeau soit remis entre de bonnes mains, des mains bienveillantes. Ce qui est au Père appartient au Fils et inversement. Si donc ces personnes ont une valeur aux yeux du Père, cela est valable aussi pour le Fils. Deuxièmement, la gloire du Christ est en eux. Quand nous avons intégré que ces personnes sont au Père, que la gloire du Père a été révélée, que Christ et le Père sont en parfaite communion dans cette mission qui est en cours, lorsque Jésus affirme que sa gloire est manifeste en eux, on comprend l'importance de la demande que fait Jésus au Père. Certes, la gloire n'est pas éclatante, mais elle est marquée. Les disciples sont parfaitement distincts du monde autour d'eux. Ils ont reçu, ils ont accepté, ils ont reconnu, ils croient. Troisièmement, Jésus demande à son Père de garder ce qu'il lui a donné, parce qu'il ne sera plus visible à leurs yeux. Le proverbe populaire dit « Loin des yeux, loin du cœur. Et en plus de ça, nous savons tout ce qui va se passer à ce moment. Ils seront particulièrement troublés, perturbés. Et ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que nous entendons Jésus qui interpelle le Père Saint. Jésus demande une protection contre les distractions du monde, les fausses doctrines, les tribulations, les souffrances qui touchent l'âme. La marche entamée avec Christ a pour objectif de conduire les disciples jusqu'au bout de leur parcours, ici-bas. Et cette foi, elle est pour l'éternité. Comment y parvenir si le Père nous protège? Le Père les garde pour la gloire à venir, lorsque Christ reviendra chercher son Église. Ceux qui auront été fidèles jusqu'au bout hériteront le royaume. La quatrième raison pour laquelle Jésus demande la protection du Père, c'est l'unité du corps. Ce corps nouveau qui est en formation, en gestation. Et le modèle de la communion est la communion divine. On peut penser que Jésus a déjà en tête le mandat qu'il a pour l'Église. Matthieu 28, verset 18. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Le projet est grand. Il est indispensable que l'Église ne se disperse pas avant la réception du Saint-Esprit. Jésus confie à son Père de prendre soin de ses disciples encore fragiles, surtout face à l'épreuve qui vient. Cette nouvelle entité doit conserver son caractère particulier. L'Église, elle est sanctifiée, elle est mise à part pour servir le Seigneur. Elle porte en elle le trésor de la vérité qu'est Jésus-Christ, que le monde ne connaît pas, mais vers qui le monde est appelé. Et Jésus conclut cette partie en assurant que sa mission a été complète. Ce qui devait être gardé l'ont été, sauf le fils de perdition. Alors on pourrait dire, est-ce que Dieu condamne avant même d'avoir donné la possibilité? Non. Le Seigneur sait toute chose. Il sait qui croit et qui ne croit pas. Et l'Écriture s'accomplit en ce que ce fils de perdition avait déjà été annoncé au psaume 41. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Comme chrétiens, nous devons être affirmatifs sur les points suivants. La promesse du Père à l'humanité de lui donner un sauveur a été réalisée. Tous peuvent avoir accès au Père par le Fils. Jésus-Christ est celui qui nous fait connaître le Père. La connaissance du Père n'est pas une question intellectuelle. Vous avez beau avoir la plus grande intelligence, il ne s'agit pas de cela. Connaître le Père, c'est entrer en relation avec lui. Jésus-Christ a accompli pleinement la mission déléguée par le Père. Ceux qui sont en Christ reflètent la gloire de Christ. Est-ce que cela vous interpelle? Lorsque parfois nous sommes dans cette agitation de la vie, de nous rappeler que nous sommes censés refléter la gloire du Christ. Quand je suis seul, quand je suis éloigné de mes frères et sœurs, est-ce que là où je vis, je reflète la gloire de Christ? La grâce divine est offerte à tous. La responsabilité individuelle d'accepter ou de refuser l'offre divine est la nôtre. Le Seigneur est tout-puissant et il sait qui accepte et qui refuse, qui accepte et qui rejette. Que le Seigneur éveille notre âme à être sensible à sa parole, à recevoir Christ comme seul et unique sauveur, seul et unique Seigneur de notre vie. Au bénéfice de la protection divine et à aller vers cet héritage qui nous attend bientôt lorsque Christ reviendra dans sa gloire. Que l'Éternel vous bénisse tous. Amen.